When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
19h, c'est l'heure que des mots d'amour ici. Autour sur le plateau de Face à l'info. Je vous dis pas, Marc Menant qui dit qu'il aime bien Simon Guilin. Simon Guilin, vous êtes prêt pour l'info?
Mais je suis prêt pour
l'info. Vous aimez bien Marc Menant?
Je l'adore.
Et vous préférez qui autour de la table?
Vous.
Bah oui.
Et de très loin.
Moi, j'aurais dit Charlotte quand même. Allez, la minute info, c'est parti.
Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. Après 5 jours de négociations en Égypte, aucun accord n'a été trouvé sur une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. La délégation du Hamas a quitté la ville du Caire aujourd'hui. Mais l'ambassadeur américain en Israël indique que les négociations n'étaient pas rompues pour autant. Nicole Belloubet annonce un assouplissement dans la mise en place de groupes de niveau au collège en français et en mathématiques. La ministre de l'Éducation nationale souhaite finalement préserver des moments en classe entière. Cette réforme, vous le savez, très contestée, voulue par Gabriel Attal, est prévue dès la rentrée prochaine. Et puis la Française des Jeux veut transformer les bars tabac en lieu de refuge pour les femmes victimes de harcèlement dans la rue. Après plusieurs expérimentations concluantes, la FDJ va proposer une formation à près de 30 000 commerçants pour être en mesure d'accueillir justement ces victimes, chère Christine.
Voilà qui désole Marc Menant. Merci beaucoup, cher Simon.
On en est là.
Au sommaire ce soir, alors qu'Emmanuel Macron réunissait les chefs de parti à l'Élysée pour évoquer la situation en Ukraine, il leur a expliqué qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine en guerre contre la Russie. Aujourd'hui, c'est justement Moscou qui a fait entendre sa voix. Emmanuel Macron accroît l'implication directe de la France dans le conflit, a déclaré le porte-parole du Kremlin. En quoi cette réunion pourrait-elle peser sur le débat mardi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat sur le sujet? L'édito de Mathieu Bocoté. C'est la nuit prochaine que le président américain Joe Biden donnera son traditionnel discours sur l'état de l'Union, son dernier avant la présidentielle de novembre. Et Donald Trump, de son côté, a remporté une large victoire lors du Super Tuesday. Nikki Haley, sa dernière rivale au sein des Républicains, a jeté l'éponge. Les États-Unis sont déjà très divisés. La folle campagne épuise. Est-ce que le pays est au bord du gouffre, au bord de plusieurs fractures? L'analyse de Guillaume Bigot. Gabriel Attal a étrié les députés insoumis à l'Assemblée nationale hier, les appelant les fossoyeurs de la laïcité. On s'arrêtera sur les 38 propositions choc de la commission du Sénat pour protéger les professeurs, le personnel éducatif des pressions, menaces et agressions. Parmi elles, interdire les signes religieux ostentatoires durant les sorties scolaires. Réduire la laïcité à l'école, n'est-ce pas là l'erreur fondamentale? Le regard de Marc Menant. 54% de la délinquance sur la voie publique à Nice et le fait d'étrangers, a révélé le préfet des Alpes-Maritimes suite à une question d'un député. Hugues Moutou a osé une fois encore dire la vérité des chiffres et des faits auxquels il est confronté. Il a ajouté que pour combattre cette criminalité, 260 délinquants et étrangers ont été expulsés depuis 2023, conformément aux instructions de Gérald Darmanin. Les Alpes-Maritimes sont un cas intéressant à analyser avec les solutions mises en place. Mais comment être efficace contre ceux qui accusent de stigmatiser les étrangers sans s'attarder sur les autres causes de la délinquance? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Je sais qu'on va me traiter de raciste, mais les individus issus de l'immigration agressent plus les femmes. Ce sont les propos de la militante féministe Marguerite Stern dans une interview à Livre Noir. Les plaintes n'ont pas tardé. Elle a été auditionnée par la police suite à une plainte de SOS Racisme pour avoir établi un lien entre certaines immigrations et des agressions de femmes. Et pourtant, elle dit que ce sont des faits. Sommes-nous devant une tentative de censure ? L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure avec nos mousquetaires en pleine forme ce jeudi soir. On commente, on décrypte, on analyse. C'est parti. Comment allez-vous ce soir ?
Mais toujours bien, très bien.
Ouais. Charlotte,
je crois que Marc a besoin de vacances.
Marc, faut pas déconcentrer Charlotte. On adore l'aventure en revanche, hein, mais Charlotte, j'ai un petit truc pour vous, une petite vidéo. Je pense que ça va vous plaire. Ah. J'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit, je l'offre en cadeau aux mousquetaires. Wow. C'est le ministre italien des Affaires étrangères, à l'occasion du congrès du Parti populaire européen, qui s'est exprimé à propos de l'affiche et la polémique à propos de l'affiche. Écoutez-le.
Je vais le dire en langue française. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des Invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres jamais respecteront les Européens. C'est pas laïcité, c'est stupidité. La laïcité, c'est autre chose. Moi, je crois à la laïcité. Mais la laïcité, c'est pas effacer l'histoire, c'est pas effacer l'identité. Personne n'est obligé à dire « je suis chrétien ». Nous, nous sommes chrétiens. Parce que notre parti est un parti chrétien-démocrate. Démocrate chrétien. On ne peut pas renoncer à notre identité. Voilà pourquoi je suis vraiment déçu pour cette image. J'espère qu'ils vont changer les choses en France. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas changer l'histoire. La croix est là, on ne peut pas l'effacer dans une photo.
Je ne sais pas, il est direct, Charlotte.
Oui, il est direct. Bah, les Italiens, ils ont un peu moins de mal avec ça que les Français. Ça s'explique beaucoup par l'histoire. Mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit c'est nous qui nous autodénigrons. C'est nous qui retirons la croix. Et personne ne nous le demande et personne ne le ferait avec ces signes religieux. Mais il met un point sur quelque chose d'intéressant. C'est que nous avons honte de nous-mêmes. En premier lieu, évidemment, l'attraction ne peut arriver.
Ensuite, je me fie à la droite européenne telle qu'elle est. Donc dans 10 ans, un tel discours sera jugé d'extrême droite. Et cet homme, peut-être pas lui, mais son héritier, s'excusera de l'avoir tenu en disant finalement, on est d'accord avec l'Europe fléchée avant la prochaine Europe.
Bon, on ne va pas faire de tour de table, on va rentrer tout de suite dans le sujet parce qu'on a beaucoup de... Oui, bon, mais vous avez parlé de la laïcité. Vous avez parlé de la... Oui. Vous avez parlé de la laïcité et stupidité dans un instant,
voilà.
Éventuel.
On a honte de la laïcité.
Vous allez nous en parler. Quitte à ce qu'on repasse un petit extrait. Mais d'abord, Mathieu Bocquet, Emmanuel Macron, il a fait le pari de placer la question de l'Ukraine au cœur des élections européennes. On reste un peu, justement, dans l'Europe et veut obliger donc les chefs de parti à se positionner sur le sujet. Il les a reçus aujourd'hui dans le même esprit. Il a rencontré hier les anciens présidents de la République. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les élections européennes se transforment finalement en référendum finalement sur l'Ukraine ?
C'est ce que cherche à faire très explicitement le président de la République et on comprend pourquoi. J'y reviendrai dans un instant, mais c'est un enjeu qui lui est favorable. Il cherche à provoquer l'effet drapeau. À tout le moins, il croit que ça lui est favorable. Il veut centrer le débat autour de cela et capter pour lui le monopole du patriotisme en accusant les autres, qui ont normalement l'étiquette patriote, d'être des défaitistes. On reviendra sur tout ça, mais là, il y a un point de départ. En fait, c'est une double séquence en ce moment qui touche à la fois à la politique étrangère et à la politique intérieure, et on ne sait pas laquelle des deux logiques est la plus importante. Politique étrangère, très sérieuse, très certainement, avec ce rappel qui me semble nécessaire, dans le cas présent, c'est je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut envoyer des troupes sur le terrain. Je trouve que c'est, personnellement, pour moi, c'est une idée exagérément audacieuse, il y aurait d'autres manières de le dire. Mais, de l'autre côté, il faut quand même reconnaître, il ne faut pas oublier le partage des rôles. La Russie demeure l'agresseur dans cette histoire, et la Russie demeure une puissance qui peut demain élargir l'agression. On parle évidemment de la question de l'Ukraine, mais aussi des minorités russes présentes dans les États au pourtour de la Russie. La Russie a envoyé quelques signaux comme quoi elle pourrait vouloir intervenir pour protéger les minorités russes et ainsi densifier son pourtour et reconstituer le glacis russe d'autrefois. Gardons ça à l'esprit. Ce n'est pas dans l'américanophilie ou l'otanophilie bête que de rappeler que la Russie peut avoir une telle politique. Une fois que c'est dit, quels sont les enjeux de politique étrangère en ce moment? Le premier, c'est un affrontement entre deux pays, la Russie et l'Ukraine. Je précise que aucun autre pays n'est engagé directement dans cette guerre, sauf ceux qui veulent s'y engager directement. C'est-à-dire la Russie a agressé l'Ukraine et des pays occidentaux ont décidé de lier leur destin au destin ukrainien. Mais c'est de leur propre volonté. D'autant que l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, c'est une forme d'annexion symbolique de l'Ukraine à l'OTAN que de dire on va se porter à sa défense comme si elle était membre de l'OTAN. Premier élément. Deuxième élément, ça nous montre à quel point, et c'est en lien avec le premier élément, à quel point l'Occident vit aujourd'hui dans un univers mental mondialisé. C'est qu'on en est venu à croire que dès qu'une démocratie est touchée quelque part dans le monde, alors elles sont toutes touchées au même instant, et il y a de plus en plus de difficultés pour les pays, sauf peut-être pour les États-Unis, à identifier leur propre intérêt national très rapidement. Si on dit la démocratie est touchée quelque part, alors on se sent obligé d'aller s'en mêler directement ou indirectement. Donc on est passé de l'intérêt national à la croisade démocratique. C'est un héritage des années 90. Autre élément qui est important là-dedans, la question de l'OTAN. Je le disais, est-ce que finalement l'OTAN a décidé d'annexer symboliquement l'Ukraine en disant quand on s'en prend à l'Ukraine, on s'en prend quand même un peu à l'OTAN? C'est une alliance militaire n'est pas censée être dans le flou. Une alliance militaire n'est pas censée être dans le vague. Et décider de faire comme si l'Ukraine était dans l'OTAN alors qu'elle n'y est pas, ça consiste à créer un flou qui peut se retourner contre soi. On le voit en ce moment avec la difficulté de fixer une ligne stratégique. Et ça croise la question des États-Unis, bien évidemment, qui, eux, dans les circonstances, ont profité, alors je ne dis pas qu'ils l'ont fait, qu'il n'y a que du mal, mais ont profité de la présente séquence depuis 2 ans pour remettre un pied en Europe alors que l'histoire tendait à les pousser un peu hors de l'Europe. C'est important de le mentionner. Politique intérieure maintenant. Et ça, je pense que c'est peut-être plus important dans la présente séquence. L'objectif, c'est de s'assurer que les Européennes, on puisse balayer globalement l'espèce de dynamique insurrectionnelle qui traverse l'Europe et particulièrement la France. Une dynamique insurrectionnelle qui est portée beaucoup sur les questions d'immigration. Et là, quel est le lien ici directement? Mais il suffit de se souvenir de 2022. Quand la question ukrainienne était au cœur de la présidentielle, ça a favorisé Emmanuel Macron. Il y a eu l'effet drapeau, il y a eu « on va soutenir le président dans cette séquence historique tragique ». Rappelez-vous les législatives avec l'effet Stade de France. L'effet Stade de France, ça favorise le RN et ça favorise l'arrivée d'un contingent de députés du RN beaucoup plus élevé qu'on pouvait le croire, parce que là, la politique intérieure primait. Donc, on peut croire qu'un des calculs du parti au pouvoir, de la majorité, c'est que si les questions intérieures qui vont, je dirais, de Crépol à l'immigration massive, en passant par la déstabilisation du pays, en passant par le sentiment de dépossession de tant de Français, eh bien, si tout ça prime, ça va favoriser l'opposition. Si on peut jouer l'effet drapeau sur la politique étrangère, alors là, c'est bonne carte, disent-ils, pour la Macronie. J'ajoute une chose qui n'est pas un détail. Il y a les Européennes, il y aura une autre séquence électorale ensuite, mais depuis 2017, à mon avis, les Français ont été privés systématiquement de leurs élections nationales. En 2017, élection complètement parasitée, on le sait, par l'affaire Fillon. C'est quand même, à l'échelle de l'histoire, c'est dramatique ce moment-là. Les Français, après 2 ans d'attentats, et davantage si on inscrit la séquence Mera, après des années d'attentats, les Français ont été privés de leur élection pour débattre finalement d'une affaire de costume et ainsi de suite qui a complètement déréglé la vie politique. 2022, l'élection a été laissée de côté, en quelque sorte, à la fois par l'effet ukrainien, qui s'est substitué aux enjeux nationaux, et aussi par la dynamique antifasciste, encore une fois mobilisée, parce que si vous avez une élection fascisme, pas fascisme, ben on laisse de côté le reste. Et ça fait un bon moment que les Français, lorsqu'ils veulent se prononcer sur l'état de leur pays, tout le système médiatique et politique met en place d'autres enjeux pour détourner le sens des élections. Donc, ayons tout ça à l'esprit. C'est une double séquence, je le dis, intérieur-extérieur. Je crois que la politique intérieure prime.
Très intéressant à analyser. La porte-parole du gouvernement a accusé plusieurs partis d'opposition de ne pas partager la vision du président de la République, à savoir que la Russie ne doit pas l'emporter. Est-ce vraiment le cas?
Oui, c'est un peu étrange cette déclaration-là. J'ai cherché à comprendre ce qu'elle voulait dire. Donc, la Russie ne doit pas l'emporter. Gabriel Attal dit soutenir, le RN soutient davantage la Russie que l'Ukraine. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire soutenir la position du président de la République dans les circonstances, que la Russie ne doit pas l'emporter. Je vais juste détailler les critères qui nous permettraient de savoir la position des uns des autres. Est-ce que ça consiste à dénoncer l'invasion? Premier élément, ça fait 2 ans plus tard, j'ai l'impression que tout le monde le fait, mais allons-y, dénoncer l'invasion. Si je suis en accord avec les sanctions ou en désaccord avec les sanctions, si c'est le cas, est-ce que je m'inscris à l'extérieur du périmètre républicain présidentiel fixé par Emmanuel Macron? Si je suis en désaccord, je ne dis pas que c'est le cas, mais je donne un cas hypothétique, avec l'envoi des armes, avec l'envoi d'armes défensives ou offensives, est-ce que je me situe à l'extérieur du périmètre présidentiel et républicain d'Emmanuel Macron? Si je suis contre l'envoi des troupes au sol, est-ce que je m'inscris à l'extérieur du périmètre présidentiel et républicain d'Emmanuel Macron? Si je ne crois pas qu'aucune limite ne doive être fixée, si je refuse cette idée qu'il n'y a plus de lignes rouges et qu'on doit s'autoriser mentalement toutes les possibilités, si je dis non, il faut quand même qu'il y ait des lignes rouges, est-ce que je suis à l'extérieur du périmètre présidentiel et républicain d'Emmanuel Macron? Si je me dis, si je soutiens que l'idée d'une alliance militaire ferme entre la France et la Russie dans les circonstances présentes, il y a là-dedans une audace qui relève presque de la témérité, et d'une témérité qui consiste à se jeter dans le feu en pensant qu'on ne va pas se brûler. Est-ce que je me situe à l'extérieur du périmètre présidentiel et républicain d'Emmanuel Macron? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être aligné sur le président de la République en ce moment? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être d'accord avec... Là, il y a la séquence en ce moment, l'escalade. Qui ne suit pas l'escalade devient automatiquement un pacifiste munichois? Genre, il va falloir quand même être un peu clair. Je note que tous les partis, aujourd'hui, ont condamné Emmanuel Macron. Est-ce que tous les partis, sauf ceux de la majorité, sont aujourd'hui extérieurs au périmètre présidentiel et républicain d'Emmanuel Macron? Et qu'est-ce que ça veut dire refuser que Vladimir Poutine gagne? Encore une fois, c'est une question un peu compliquée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut militer pour une reconquête intégrale des territoires perdus par l'Ukraine depuis le début de la guerre? Est-ce qu'on considère que tant que le territoire n'est pas regagné intégralement, ça veut dire qu'on fait des complices de Poutine? Est-ce que ça implique la reconquête de la Crimée? J'aimerais le savoir, parce que la question de la Crimée est une question qui n'est pas un détail ici. Est-ce que ça veut dire qu'on est conscient, on accepte l'idée d'une guerre longue, d'une guerre très longue, une guerre à laquelle on s'habituerait en quelque sorte, non pas au cœur de l'Europe, mais aux confins de l'Europe? Et est-ce que ça veut dire, ça c'est une chose qui me semble assez importante, si on en vient à se dire, on refuse la possibilité de l'affrontement direct avec la Russie? Est-ce que c'est déjà une forme d'esprit de collaboration et de capitulation pour les gens de la majorité? Est-ce que, pour être véritablement dans l'esprit, on refuse que Vladimir Poutine gagne? Est-ce que ça veut dire qu'on est comme certains, on a déjà entendu par certains ministres des Affaires étrangères en Occident, est-ce que ça veut dire qu'on milite pour le changement de régime à Moscou? Est-ce qu'on dit qu'il n'y aura de paix que si Poutine tombe? Autrement dit, est-ce que Poutine doit devenir le prochain Saddam Hussein, le prochain Kadhafi? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit voir les choses? Si on voit les choses ainsi, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre tout faire pour courir à l'affrontement nucléaire? Parce que si la seule manière de sortir de la guerre, c'est faire tomber le tyran à Moscou, eh bien on est certain d'aller à la guerre nucléaire.
Et d'ailleurs, Moscou a fait entendre sa voix aujourd'hui par le porte-parole du Kremlin qui a déclaré que Emmanuel Macron accroît l'implication directe de la France dans le conflit en Ukraine. Autre question, mais n'y a-t-il pas un risque à se montrer faible devant la Russie?
Mais bien sûr, mais moi je pense que je ne suis pas du tout de psychologie pacifiste. Moi je crois au rapport de force, je crois au rapport de puissance, mais cela dit, je reprends la formule de Peggy reprise par Finkielkraut, je ne veux pas me tromper d'heure, je ne veux pas me tromper d'époque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas en ce moment en 1938 ou 39, et toutes les références abusives à la Deuxième Guerre mondiale nous détournent, je crois, de la situation présente. C'est-à-dire, on n'est pas, quand on dit qu'il faut trouver une solution de paix qui ne va pas jusqu'à faire tomber Poutine, on n'est pas en train de rééditer Munich. On est en train de tenir compte de ce que ça veut dire une guerre globale à l'ère nucléaire. J'avais l'impression que ça comptait. On n'a pas simplement des Messerschmitt qui sont des espèces de biplans avancés devant nous. On est devant un monde qui est tout autre, qui est plus celui de la guerre mécanisée, qui est celui de la guerre nucléaire. Je le dis comme ça, ça ne me semble pas un détail. Nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide non plus, où deux empires idéologiques s'affrontent et l'un d'entre eux doit tomber parce que son modèle est périmé. Nous ne sommes plus dans cette époque, non plus dans celui des croisades démocratiques des années 90-2000 qui nous ont conduit en Irak, qui nous ont conduit en Libye, qui ont conduit le monde, à ce que j'en sais, à une théorie du domino infernal, c'est-à-dire globalement les interventions américaines depuis l'Irak, puis on pourrait même remonter un peu avant, sont des interventions qui ont semé le chaos dans le monde. Entre Moscou et Washington, je préfère Washington, mais je note que Washington est parfaitement capable de semer le chaos dans le monde. Il ne faut pas l'oublier.
Avec quelques mensonges au passage. Disons-le.
Tous les politiques en ce monde ont menti, même les démocrates.
De sacrés mensonges.
En ces matières, je pense que tous les politiques, quels qu'ils soient, évoluent dans l'univers du mensonge. Ensuite, dans quelle époque sommes-nous? Nous sommes dans une époque multipolaire, dans une époque avec des États civilisationnels, dans des époques où il n'y aura pas de paix définitive sous le signe de la réconciliation kantienne. Ça n'arrivera pas, il faut l'accepter. Ce qu'il peut y avoir, c'est une atténuation des conflits, une paix froide, une paix sans enthousiasme, une paix qui n'est pas habermassienne ou kantienne, une paix qui ne permettra pas de dire « Yahou, l'humanité est rassemblée, kumbaya, tout va bien ». Non, ça n'arrivera pas. Mais ce qu'on peut espérer, c'est une atténuation des conflits et éviter la transformation d'un conflit local en conflit global. Je ne suis pas certain que dans la dynamique présente, l'appel à « il n'y a plus de limite, on doit toujours aller plus loin » correspond à une lecture adéquate de notre époque avec le type de conflit qu'elle ouvre devant nous.
Rappel, mardi, débat à l'Assemblée, mercredi, débat au Sénat, qu'on suivra évidemment avec attention. Merci Mathieu pour votre regard. Et puis dans un instant, vous me direz si vous la jugez raciste ou pas. Marguerite Stern, la féministe par rapport à ses propos, qui rejoignent un petit peu peut-être ceux du préfet des Alpes-Maritimes, mais il n'est pas poursuivi. J'aimerais bien comprendre tout ça, mais si vous voulez, spécialiste. Guillaume Bigot, c'est la nuit prochaine que le président américain Joe Biden va faire son discours de l'Union, très attendu en général, son dernier, avant la fin de son mandat et avant la présidentielle de novembre. Et là, on est dans une séquence Donald Trump qui rafle tout. Nikki Haley, ça y est, elle a jeté l'éponge. Il est en train de tout gagner. Donc, ça y est, on a nos deux finalistes.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais avant même ce qu'on appelle aux États-Unis le Super Mardi, qui est un temps fort de ces primaires qui s'est déroulé ce mardi, qui a confirmé ces deux favoris finalement, il n'y avait pas non plus énormément de suspense. Mais peut-être que pour nos téléspectateurs, pour planter un peu le décor, on va donner quelques clés de lecture de cette élection présidentielle américaine qui est quand même, les rappels peut-être pour certains, qui sont quand même une élection très différente. Ce n'est pas une élection au suffrage universel direct. Ils n'élisent pas directement le président, les Américains, ils élisent des délégués, des grands électeurs, dont le nombre varie en fonction des États. Et parce qu'il y a une logique comme ça démocratique, mais aussi une logique d'État. Donc en fonction des États, ils ont plus ou moins grands électeurs. Les grands électeurs ensuite votent entre eux. Donc c'est un suffrage universel indirect. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est un marathon très long. C'est un processus qui s'étend presque sur un an. Ça a démarré au mois de janvier. Et il y a en fait deux phases. Il y a une phase de préélection, on appelle les primaires, et la phase d'élection. Et donc là, on est en plein dans cette première phase, avec ce super mardi, la phase de primaire. Et là, c'est pas tous les Américains qui sont appelés aux urnes. Ce sont les sympathisants des démocrates et les sympathisants des républicains qui vont voter. Et ils vont même pas voter directement pour des candidats, ils vont voter pour des délégués. Et c'est un processus assez long parce que ça va aboutir 18 juillet pour les républicains, convention de Milwaukee, ils vont désigner leurs candidats. 22 août pour les démocrates, convention de Chicago, ils vont désigner leur candidat. Mais en réalité, il n'y a pas de suspense. Pourquoi il n'y a pas de suspense? D'abord parce que c'est un président sortant, Joe Biden. Et en général, le président sortant, c'est le candidat naturel du parti. Ensuite, parce que, il y a ce Super Tuesday qui donne quand même plus que la tendance, parce que c'est 15 États, c'est donc un tiers des délégués. C'est une formule accélérée de primaire. Et là, on a vu que même si Joe Biden était un peu vieux, même s'il y avait eu beaucoup de votes blancs, il a quand même fait quasiment le grand chelem. Sur 15 États, il a raflé 15 États sur 15. Voilà, il n'y a que les Samoa, une sorte de territoire d'outre-mer du Pacifique américain, qui ont voté contre lui. Pour Trump, c'est la même chose. Trump, il a beau être clivant, radical et tout ce qu'on veut, sur 16 États, il en a raflé 15. 15 sur 16, c'est un score énorme. Alors, il y a un État qu'il n'a pas décroché tout de même. On va quand même en dire un mot, parce que c'est le Vermont et c'est sa rivale, Nikki Haley, la républicaine. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quasiment tous les gens qui se retournent contre Donald Trump, c'était les anciens collaborateurs de Donald Trump. Donc déjà, ça, c'est pas terrible pour lui. Mais en plus, cette Nikki Haley, elle ne l'a même pas rallié. Normalement, on est dans un parti, là, le parti républicain, si on perd, ben, on se rallie, quoi. Et elle a dit, non, je lui souhaite bonne chance, bien sûr, mais la politique consiste à rallier les gens à sa cause, non à les en détourner. Sous-entendu, bah, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement clivant, Donald Trump. Et donc, il faut maintenir l'unité du pays.
Alors, si les deux favoris et donc les deux candidats sont déjà connus, est-ce qu'on peut dire, à l'heure qu'il est, que Donald Trump est déjà quasiment réélu 47e président des États-Unis?
Vous savez, quand il y a des élections, il y a quand même un aléa. On peut pas, c'est les trucs des sondeurs. Les sondages sont quand même très très en faveur de Donald Trump. Il a vraiment une avance vraiment considérable, quasiment écrasante sur Joe Biden. Mais tant qu'une élection n'est pas jouée, elle n'est pas jouée. Ensuite, Joe Biden, c'est un vieux politicien qui est assez retors. Alors, il y aura un discours sur l'état de l'Union. Ça peut être un discours aussi, on verra l'état du président, d'ailleurs, plutôt. Mais enfin, disons que Joe Biden, il part avec quand même un inconvénient en dehors de son âge, ses périodes un peu où il ne peut pas trop cacher sa sénilité. C'est c'est le fait que les promesses, finalement, du trumpisme, les promesses économiques du trumpisme, notamment le protectionnisme, notamment la relance dans les technologies, dans les infrastructures, c'est tout le contraire de la politique économique européenne. Ici, la politique économique, ça consiste à casser la croissance et à faire des trucs d'escargot pour protéger les rentiers. Aux États-Unis, ils injectent massivement de l'argent et ils font de la croissance. Donc ça marche plutôt très bien. Ils font du protectionnisme, ça marche très bien. C'est ce qu'a fait Biden. Mais Biden, il se lance dans la guerre en Ukraine, qui n'est pas très populaire. Et Biden, surtout, eh ben, il a laissé la bride à l'immigration et ça lui est vraiment, vraiment reproché. Donc on peut dire que Trump est très... très favori.
On va marquer une pause et puis on va voir un peu au niveau des problèmes judiciaires parce qu'on voit que Donald Trump, il saute tous les obstacles. Ouais. Mais est-ce qu'il va y arriver ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y aura quand même des petites embûches encore. On marque une pause. À tout de suite. Beaucoup de sujets ce soir. On parlera dans un instant de beaucoup de choses. Mais restons sur Donald Trump. Restons sur Donald Trump. On était avec vous. Une question directe.
Oui.
On voit que toute la voie est quasiment tracée pour Donald Trump.
Trop beau pour être vrai.
C'est ça. Mmh. Est-ce que le système peut vraiment laisser Donald Trump gagner ?
Déjà, il contrôle, et ce n'était pas le cas la dernière fois, le Parti républicain. Parce que la dernière fois, il a quand même réalisé un exploit. Il a été élu contre les démocrates, il a été élu contre la presse, et il a été élu contre le Parti républicain, qui était contre lui. Cette fois-ci, il le contrôle. Il le contrôle, il a ce qu'il appelle les rhinos, c'est-à-dire les Republicans in name only, les républicains qui sont que de nom. Et là, il les a mis dehors, il les a chassés, il a fait une purge. Ensuite, on l'accuse de népotisme, mais il s'en fiche, lui, ça n'a rien de l'arrête. Donc il a nommé sa belle-fille, Laura Trump, à la tête du parti. Et il y a son stratège aussi qui l'aide. Il contrôle les patrons républicains du Sénat. Il a changé le sénateur, en fait. Il a poussé à démissionner l'autre. Et il y en a un qui est à sa main. Et il a le speaker de la Chambre qui est pro-Trump. Donc ça fait déjà, il a un bon contrôle, disons, du système, on va dire, politique, politicien américain. Deuxième chose, il y avait évidemment ces histoires d'affaires judiciaires. C'était la meilleure carte du système, pour répondre à votre question,
oui,
pour l'empêcher. Et en fait, il y avait, disons... Voilà, le plus grave là-dedans, parce qu'il y a 4 affaires, 91 chefs d'inculpation, etc. Bon, le plus grave, c'était quoi ? C'était de le rendre inéligible. Voilà, le rendre inéligible, il y avait une première possibilité, c'était d'arriver à ce qu'un tribunal déclare qu'il ne bénéficiait pas de l'immunité présidentielle au moment des émeutes du Capitole, le 6 janvier 2021. Et là, les durées de recours, etc., font qu'on ne va pas rentrer dans les détails judiciaires, du circuit judiciaire américain, mais... ça ne sera pas tranché par les tribunaux avant l'élection. Donc là-dessus, il est tranquille. Deuxième chose qui était potentiellement très grave, qui pouvait le mettre, erreur système, c'est que certains États, le Colorado, le Maine, les cours suprêmes, c'était remonté jusqu'aux cours suprêmes, on avait dit 14e amendement. Alors qu'est-ce que c'est que ce 14e amendement à la Constitution américaine ? Ça a été fait justement à la fin de la guerre civile pour empêcher des gens qui participent à une insurrection de se porter candidat, d'être candidat. Donc si on avait pu invoquer le 14e amendement contre lui... il n'était pas candidat. Et là, eh bien, la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême fédérale de Washington, a dit non, les États fédérés ne peuvent pas se mêler de ça et ne peuvent pas empêcher un candidat d'être candidat à l'élection nationale. Donc il est tranquille. Il reste quoi ? Parce qu'en fait, les démocrates, ils ont vu très large. Les démocrates, ils n'ont pas été de main morte, ils ont même été de gaieté de cœur, on peut dire. Ils ont pris tous les prétextes possibles et imaginables. Donc ça, c'était des choses assez graves qui méritaient d'être discutées devant les tribunaux, mais cette histoire d'actrice pornographique avec qui il a peut-être passé un peu de bon temps et il a dû indemniser la fille pour pas qu'elle parle, bon, en quoi c'est grave, hein, c'est un péché véniel par rapport, politiquement en tout cas, par rapport au reste. De la même façon qu'il ait ramené des documents confidentiels chez lui. Bon, il y a beaucoup de présidents qui l'ont fait aussi. C'était pas si... Donc, ils ont essayé de faire feu de tout bois. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça l'a nourri, au contraire. Et il s'en nourrit. Et il se présente maintenant comme le candidat de la dissidence. Voilà, il dit « Joe Biden, c'est comme un président du tiers-monde qui essaie de me disqualifier en me mettant hors jeu, en m'empêchant de candidater. » Il a cette formule incroyable. Il dit « Chaque fois que des démocrates radicaux, des marxistes, des communistes, des fascistes... » Oui, il ne fait pas dans le détail. Hein. « Des fascistes me mettent en accusation... » C'est un honneur. Pourquoi c'est un honneur ? Parce que je suis inculpé pour vous, pour ma base. Donc vous voyez, donc il arrive vraiment à s'en nourrir. Donc je pense qu'il n'est pour l'instant pas arrêtable.
Est-ce que la manière dont ce scrutin s'engage vous inquiète ? Parce que On en parlait un peu pendant la publicité entre nous, et on va dire les choses aussi à l'antenne. Est-ce que vous pensez que cette élection peut fracturer les États-Unis? Et même on se disait que les États-Unis sont déjà fracturés.
Ah, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je connais bien les États-Unis. Je connais pas mal de gens qui m'informent. En fait, il y a toujours dans les élections américaines une ambiance un peu, disons, de kermesse, une ambiance un peu festive. C'est des élections légères. De toute façon, c'est Pepsi Cola contre Coca-Cola. C'est quasiment LR contre le PS, enfin voilà, ou contre Renaissance. Donc, on a Pepsi contre Coca. Donc là, finalement, dans les élections américaines, on se rend compte que là, il y a une ambiance très grave. Il y a une ambiance de veillée d'armes. Il y a une ambiance tendue, violente, en fait. Pourquoi ? D'abord, on pourrait dire parce que les candidats sont un peu au pied du mur. Ils n'ont plus tellement... ils n'ont plus rien à perdre, d'une certaine façon. Par exemple, Donald Trump, s'il perd la présidentielle, sa fortune, à mon avis, s'évapore, et il peut même finir en prison, il va même sûrement finir en prison. Donc, il a pas le droit de perdre, d'une certaine façon. Joe Biden, 81 ans, c'est son dernier tour de piste, il le dit, je suis en croisade contre le mal, je n'ai plus rien à perdre, je vais tout donner. Donc, il y a quelque chose comme ça, et les deux candidats se disent, c'est moi ou le chaos, et les partisans y croient. Deuxième chose, normalement, c'est à ça que sert la démocratie, la politique en général, mais particulièrement la démocratie. La démocratie, c'est la polémique. La polémique, vous savez, c'est la même étymologie en grec que la guerre. C'est la guerre des mots. Et donc, ça vide les querelles, ça vide les tensions, ça vide les passions. Mais cette fois-ci, la démocratie américaine ne servira pas à cet objectif. Pourquoi ? Parce que chacun des deux candidats dit l'autre triche. Il fausse la démocratie. Il fausse ces élections. Du côté de Trump, c'est clair. Trump dit, de toute façon, c'est l'État profond, avec des pédophiles, avec des gens qui veulent dépeupler l'humanité à coups de vaccins, à coups de Troisième Guerre mondiale. Et en fait, ces gens-là sont capables de tout. Comme leurs buts sont inavouables, dit-il à ses partisans, eh bien, tous les coups sont permis, donc ils trichent. Donc, la dernière fois, ils ont triché, et ils vont retricher à nouveau. Côté Biden, c'est la même chose. Il y a le mépris de classe pour les électeurs de Trump, c'est-à-dire les rednecks, ceux qui ont le cou rouge, les gens qui ne sont pas très éduqués, qui décrivent un peu comme des fanatiques, des gens facilement influençables, le fameux panier des déplorables dont parlait Hillary Clinton, il y a le mépris des électeurs, mais il y a aussi, je dirais, la disqualification, la délégitimation de la personnalité de Trump. On dit cet homme, c'est un fou furieux. S'il arrive à nouveau dans la Maison-Blanche, il va chercher à se venger. S'il arrive à nouveau dans la Maison-Blanche, il y avait une Américaine qui m'avait dit « Mais de toute façon, on ne pourra pas le sortir déjà en 2020. Il faudra envoyer des infirmiers psychiatriques pour le sortir du bureau. » Donc c'est ça que pensent les démocrates. Donc ça crée une tension. Et cette tension, elle peut déboucher en fracture ouverte. Parce que c'est manichéen, c'est le bien contre le mal dans les deux camps. Et je pense qu'en plus, chaque camp est prêt à aller jusqu'au bout. Et ça peut devenir un affrontement armé. Vous savez qu'aux États-Unis, dans la Constitution, il y a non seulement le droit du port d'armes, mais le droit d'appartenir à des milices bien organisées. Ça vient de l'origine des États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas du tout une démocratie comme nous. Nous, pour eux, ils pensent qu'ils ont, disons, la Constitution pour les protéger du gouvernement. Donc ça peut déboucher en guerre civile. Dernier il y a déjà mot. Eu une guerre civile de 61 à 65. Ça a fait 700 000 morts. Et là, je pense que ça pourrait recommencer.
Impressionnant. On suivra tout ça de près. Avec notre regard outre-Atlantique. Merci Guillaume Bigot.
Merci à vous.
Alors que Gabriel Attal a étrié hier les députés insoumis à l'Assemblée nationale, les appelant les fossoyeurs de la laïcité, je rappelle que vous avez écrit « La laïcité dévoilée ». J'aime bien citer votre livre parce que ça reste quand même un de vos chevaux de bataille.
Oui, oui, voilà. Oui.
On s'arrêtera sur les 38 propositions choc de la commission du Sénat pour protéger les professeurs, le personnel éducatif, des pressions, des menaces, des agressions. Et parmi ces propositions, interdire le voile lors des sorties scolaires. Mais vous, vous avez envie de vous arrêter sur le fait de... Vous êtes interpellé par le fait de réduire la laïcité uniquement à l'école.
Bah oui, parce que ça pose quand même... les questions fondamentales. On va essayer de décliner avant d'arriver à ce point, je dirais, plaque tournante de la réflexion. Déjà, il y a, et c'est quand même extrêmement rare, les proviseurs qui sont descendus dans la rue il y a deux jours, ou c'était hier, oui.
Avant-hier,
oui, voilà. Et ils se plaignaient de quoi ? Eh bien, des menaces. Menaces de plus en plus virulentes contre eux. Il y a également des menaces qui sont exécutées et il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter que la sœur de Michael Paty, avait écrit au président du Sénat pour dire, bien voilà, leur mort a servi à rien. Leur mort qui ? À son frère. et puis également Dominique Bernard. Et là-dessus, le président du Sénat a organisé une commission pour essayer de faire le point. Que se passe-t-il exactement? Alors, il y a eu deux rapporteurs, François-Noël Buffet et Laurent Lafon. 45 auditions ont été menées et puis on s'est rendu dans divers établissements sentir ce qui se passait véritablement. Quels étaient les points d'achoppement? Est-ce que c'était aussi grave que ce que certains hurlaient? Parce qu'on n'est plus en train de clamer, on est en train d'hurler. Il y a une sorte de désespérance. Et on est allé aussi plus loin au Sénat, parce que les premiers éléments montraient qu'on était dans une situation de plus en plus détériorée, on a mené une agora avec pour thème la laïcité menacée, République en danger. Et il faut remarquer que les violences endémiques, c'est-à-dire que là encore, dans cette commission, on arrive à cette conclusion, des violences endémiques qui entraînent 10% de violences dans les écoles primaires, avec des menaces sur 38 000 instituteurs ou professeurs des écoles. Moi, je suis à l'ancien registre, donc je dis instituteur, mais maintenant, c'est professeur des écoles. Dans le secondaire, on monte à 12% de violences, violences directes, et 58 500 professeurs qui sont concernés. Alors, forcément, il y a les résolutions, les propositions de sanctions, et parmi celles-ci, on dit, tiens, bah, prenons par exemple, celle qui théoriquement doit permettre de lutter contre l'absentéisme scolaire, un absentéisme qui se multiplie et en particulier dans certaines périodes. On arrive au moment du Ramadan, et vous avez des élèves qui disparaissent. Et théoriquement, les sanctions sont importantes. Alors, la première, non, c'est de la babiole, enfin bon, ça dépend, c'est 135 euros. Mais ça peut monter jusqu'à 35 000 euros et 2 ans de prison si on estime que l'enfant est trop souvent soustrait au système scolaire et que ça met en péril son éducation. Donc on se dit, c'est extraordinaire. Alors il faut une loi qui pénalise les violences et que l'on risque là aussi la prison et des sanctions énormes. Et puis vous avez l'UNSA, qui est le grand syndicat des professeurs, qui dit « mais non, ça ne sert à rien ». On l'a bien vu, puisque l'absentéisme scolaire, il existe toujours. Là, ça sera pareil. Non, il faut essayer de convaincre les parents. Ce à quoi vous avez une professeure d'anglais qui se trouve en Seine-Saint-Denis a dit « mais convaincre les parents ». On a tous les ans, par exemple, un règlement intérieur, et on demande aux parents de le lire et de le signer. Eh bien, les trois quarts ne le lisent pas, d'abord parce qu'ils ne savent pas lire, et donc ils ne le signent pas. Alors, on voudrait aussi imaginer une charte d'engagement au début de chaque année scolaire. On dirait, vous garantissez que votre enfant fera ci, que votre enfant fera ça. Elle dit, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien. Et après, vous avez, on en arrive au cas où on est à la fois sous le registre de l'école, ce qui est la laïcité, mais les sorties. Et où là, bah, comme ça s'est passé il y a quelques jours, l'élève arrive avec son voile, a dit « moi je suis en sortie, en plus c'est une sortie volontaire, je n'ai pas à enlever mon voile ». C'est-à-dire qu'on arrive à cette folie totale, à savoir que l'élève est dans une sorte de dichotomie, schizophrénie, à un moment il peut être sous sa foi, vivre selon sa foi, et puis soudain, il ne peut plus l'être tout en étant avec son professeur quand il a passé certains murs. C'est-à-dire qu'on arrive à quoi? On arrive à faire en sorte que la laïcité, ça devient un lieu où on peut et où on doit s'y configurer, c'est-à-dire que vous avez des chapelles de laïcité. Vous avez des refuges de laïcité. On en est à avoir des refuges contre le harcèlement. C'est-à-dire, vous rendez compte, dans une démocratie, là, vous avez la FDJ qui dit, ben voilà, nous, on va faire des petits refuges. C'est-à-dire, vous êtes en sécurité, il y a quelqu'un qui vous harcèle un peu trop, venez dans le bureau de tabac. Oui, vous rendez compte
contre le harcèlement.
Voilà. Et là, la laïcité, c'est pareil. Oui. Vous avez des endroits où vous devez être dans la laïcité. Oui. Mais alors, ça veut dire quoi? Et le président Larcher dit maintenant, la République, il faut véritablement qu'il y ait la laïcité qui s'inscrive dans les écoles. Mais s'il n'y a que des endroits précis, que dans les entreprises même, les entreprises doivent veiller à ce qu'il y ait un règlement dans lequel on vous soustrait à la possibilité d'afficher des signes religieux, c'est une aberration. Il faut enfin qu'on ait du courage, qu'on cesse d'écouter ces
ces fossoyeurs que sont même des personnages aussi crédibles que Régis Debray, qui a écrit dans un livre que la laïcité, il ne s'agit pas de laïciser la société, ce serait une erreur. C'est également Claude Askolovitch, ce grand prophète d'intellectuel. La laïcité, ce mot malheureux, devenu une camisole idéologique, pendant ce temps grandit une France musulmane. Grandit une France musulmane, c'est le contraire de la laïcité. Donc il nous faut maintenant oser. Oser quoi ? Eh bien, avoir une république laïque. Pas une école laïque. Une république laïque, sinon ça signifie que notre principe fondamental n'existe pas en tant que tel. Il est temps de se réveiller, les garçons. Et vous, mesdames, qui êtes ceux qui régissaient notre République et qui voulaient que nous vivions tous ensemble. On ne peut vivre ensemble que si, une bonne fois pour toutes, on confine l'affichage de la foi à des lieux restreint, et ce n'est pas la laïcité qui doit devenir une religion en ayant sa petite chapelle pour être exercée.
Question oui ou non. Vous êtes pour la croix sur les JO ou la fiche des JO, oui ou non ?
Mais ça n'a rien à voir.
Non, mais
ça.
Oui ou non.
Mais si c'était une croix, non, si c'était une croix sur les JO, je dirais non. Mais si c'est une croix sur les Invalides, je dis oui. C'est sur deux choses complètement
alors
différentes.
Alors, je vous propose de réécouter le ministre italien des Affaires étrangères. Laïcité ou stupidité, c'est en lien direct.
Ben oui,
ce que
complètement.
Vous venez dire. Il faut que l'État puisse affirmer ses positions sur certains sujets. On écoute. C'est la voix du ministre italien des Affaires étrangères.
Je vais le dire en langue française. Ce n'est pas une bonne idée d'effacer la croix des Invalides. Ce n'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres ne jamais respecteront les Européens.
Plus rien à ajouter. Je vous propose d'écouter, de passer à un autre sujet pour écouter, pour qu'on puisse parler des narcovilles, puisque des magistrats ont tiré la sonnette d'alarme pour sauver Marseille face au narcotrafic. Nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Ils ont été auditionnés mardi et mercredi au Sénat. Je vous propose d'écouter le président du tribunal judiciaire de Marseille hier au Sénat.
C'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable sur le plan des moyens financiers, humains, technologiques et même législatifs.
On a perdu la guerre.
Alors deux choses. La première, c'est que, vous savez, on a dans notre corps des bactéries. Vous allez me dire, quel rapport ? Parce qu'on ne peut pas éliminer complètement les bactéries. C'est les bonnes bactéries qui, entre guillemets les bonnes, qui vont détruire les autres. Et donc, d'une certaine façon, il y a toujours entre l'État, dans n'importe quel État du monde, à toutes les époques de l'histoire, si vous ne laissez pas un minimum de criminalité à bas bruit détruire l'autre criminalité, d'une certaine façon, vous n'y arrivez pas. Et donc là, il y a un angélisme qui peut être absolument redoutable.
Moi, je serais plus prosaïque, si je peux me permettre. Des baronnies se constituent, des souverainetés narcotiques, appelons ça comme ça, des narco-États au niveau de Marseille, ailleurs. Et le fait est que l'État est chassé de ce territoire. Il demeure à la manière... Oui, oui. Il donne des prestations
encore
sociales, mais il n'exerce plus la souveraineté.
Oui.
Donc ça, c'est un objet de reconquête territoriale, mais qui se joue pas sur 10 ans, pas sur 5. C'est une longue, longue tâche de reconquête.
C'est ça.
Oui, mais c'est terrifiant parce que c'est pas uniquement sur des points locaux. C'est-à-dire que notre société, la planète, est gangrénée par les grands trafiquants, les gangs japonais, les gangs napolitains, etc., etc. C'est terrifiant et on dirait même que l'économie globale, s'il n'y avait pas le réinvestissement de l'argent sale en blanchiment, cette économie s'effondrerait. Vous vous rendez compte comment ils ont réussi à gangréner le système ?
Là, dans la déclaration, celle-ci du magistrat qu'on a entendu, il nous dit que les trafiquants ont plus de moyens que l'État,
oui.
Alors des moyens logistiques et des moyens législatifs. C'est
oui.
Étonnant dans la bouche d'un magistrat. Et dans le détail, ils disent des choses qui peuvent être changées, par une volonté politique. Ils disent, un, qu'il faut un univers carcéral dur. pour les trafiquants de drogue, parce qu'aujourd'hui, ils continuent et leur trafic et ils commanditent des assassinats depuis la prison. Cellule. La deuxième chose, ils demandent à simplifier la procédure en accusant notamment certains avocats de ces grands délinquants, en disant qu'ils ne s'attaquent que sur la forme, pour essayer de faire de la nullité. Troisième chose extrêmement inquiétante, il parle de la corruption à basse intensité qui est partout, et il parle notamment de ces nullités dans les procédures qui sont soit le fruit de l'incompétence avec une procédure très difficile, soit parfois le fruit de la corruption. Donc oui, il y a de quoi inquiéter, mais aussi mobiliser le politique. Tout n'est pas perdu.
Inquiéter, mobiliser le politique, sévérité, et on va voir trois mots qui peuvent servir aussi dans votre chronique, puisque le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, on a déjà parlé de lui, il se fait remarqué par sa sévérité, on peut se permettre sa poigne, a récemment fait réagir en publiant le taux d'implication d'étrangers dans la délinquance de son département. Première question, qu'est-ce qu'on apprend concrètement pour les faits ?
On apprend en gros que les étrangers sont mis en cause dans plus de la moitié des cas dans les deux grandes agglomérations. Ils donnent deux chiffres. Nice, 54,10%. On parle des personnes de nationalité étrangère, hein, que les choses soient claires. Et Cannes, 53,03%. C'est 4 et 7 points de plus que l'année précédente. Donc non seulement ils sont surimpliqués, mais surtout c'est en forte augmentation. À Nice, dans le détail, hein, à Nice, 82,77% des vols à la tire sont commis par des étrangers. C'est un peu plus de 76% à Cannes. Sur les vols avec violence, c'est 61,8% à Nice et 68,4% à Cannes. Les vols avec effraction, c'est les mêmes proportions. Sur le trafic de drogue, il prend l'exemple du quartier des Moulins, dont on a beaucoup parlé. Il en avait d'ailleurs, lui, déjà parlé. Et il donne des chiffres très précis. Il y a 603 placements en garde à vue l'an passé sur les points de deal, hein, des gens directement prélevés, on va dire des points de deal par les forces de police, 72% des personnes interpellées, donc la main-d'œuvre sur le terrain, est de nationalité étrangère. Autre détail important, parmi eux, 38%, presque 40% sont des mineurs étrangers, les fameux MNA. Et Hugues Moutou, donc, qui est le préfet en l'occurrence, dès son arrivée, il avait évoqué cette question-là. Parce que vous savez, les Alpes-Maritimes, ils ont la spécificité d'être un département frontalier.
Je ne sais pas si on peut montrer la carte pour voir effectivement à quel point. Là où ils sont, là où est placé justement ce département.
C'est ça.
Donc il a oublié de la sortir.
Ils gèrent en même temps le passage frontière, l'arrivée des mineurs étrangers et
ils sont en première ligne.
Et c'est ça. Et l'implication, donc il peut faire le lien entre ces trois, on va dire, sujets-là. Et il disait dès le début que certains mineurs et certains étrangers tout court, qu'ils soient vrais mineurs ou faux mineurs d'ailleurs, sont pris en charge dès la frontière par des groupes criminels qui ont une main d'œuvre d'ailleurs qui échappe plus facilement à la justice, surtout s'ils sont mineurs, hein, pour les raisons que l'on connaît, et par ailleurs qui sont plus difficilement traçables et surtout inconnus des services de police qui travaillent sur la délinquance locale. Évidemment, quand vous venez d'arriver et que vous êtes étranger et que vous n'avez pas vos papiers sur vous, vous êtes difficilement traçable. Et par ailleurs, à chaque fois qu'il fait des conférences de presse, Hugues Moutou, il rappelle, en s'adressant notamment à la jeunesse locale, en lui disant « il n'y a aucune autre issue à ce trafic-là que la prison ou, encore pire, le cercueil ». Et je pense que c'est un discours qui ne devrait pas être que dans la bouche des préfets quand vous voyez que s'ajoute au trafic de stupéfiants, très clairement à la frontière, le trafic d'êtres humains, parce que ce n'est pas autre chose que ça. Et ce serait bien que des associations qui se préoccupent de ces personnes se chargent aussi d'assumer ce discours-là. Et de manière générale, il souligne, et c'est la raison pour laquelle il communique, une nette augmentation des prédations crapuleuses et des vols commis par les ressortissants étrangers. En gros, il communique sur ce qu'on appelle la délinquance de voie publique, celle qui se passe dans la rue et qui est surinvestie par rapport au nombre qu'ils sont par ces étrangers. Et c'est pour ça qu'il répond immédiatement en disant à cette délinquance-là, il ne faut pas répondre par la prison, mais par l'expulsion systématique. Qu'on comprenne qu'il n'y a aucun désir de donner une seconde chance à quelqu'un qui est accueilli déjà avec des flux massifs dans cette délinquance. Par ailleurs, vous comprendrez que quelqu'un que vous embauchez, que vous mettez sur un point de deal, s'il risque l'expulsion plutôt qu'un mini passage en prison dans certains cas, c'est beaucoup moins intéressant de tabler sur cette personne-là. En particulier, s'il donne ça, je vous donne simplement deux chiffres qui sont donnés par la préfecture. 2023, c'est 44 000 interpellations à la frontière, plus 10% par rapport à l'année précédente. Et la mise à l'abri des mineurs étrangers est passée en 2019 de 138 personnes, juste sur le mois d'août 2019, 138 personnes. En 2023, sur le mois d'août, on est à 961. Vous voyez l'augmentation. C'est évidemment devenu une filière utilisée par les réseaux de passeurs en amont et de criminels en aval. Et donc c'est l'exposition du phénomène de criminalité et surtout de son augmentation qui a de quoi inquiéter, parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête tout seul, on va dire, si personne ne le fait. Et quand il doit répondre de cette communication, le préfet explique simplement, il dit il faut commencer par prendre la mesure de ce qui ne se passe sur le terrain pour afficher des solutions efficace. Efficace, ça veut dire adapté à la réalité de la criminalité. On en parle souvent, mais parfois on a des normes qui sont tellement vieilles, et d'ailleurs c'est exactement ce que nous disaient les magistrats sur le trafic de drogue, je referme la parenthèse, c'est que si nous n'adaptons pas nos normes et notre manière de rendre la justice à la réalité de la criminalité, eh bien évidemment on passe à côté, et simplement l'application des délinquants étrangers augmente en zone police, donc en ville, et en zone gendarmerie, donc dans des zones beaucoup plus rurales. Donc il y a clairement lieu de s'inquiéter. Et derrière ces pourcentages, on va dire, d'augmentation d'une année sur l'autre, il y a évidemment des victimes, hein, parce que quand vous avez vol avec violence, ça veut dire une personne violentée, pas simplement volée, si je puis dire. Et en 2023, c'est 16 335 faits qui sont déclarés. Vous avez 992 gardes à vue, 699 mises en cause dans ces gardes à vue qui sont étrangers. Donc c'est vraiment une proportion, une anomalie statistique.
Le constat est fait. Quelle solution il propose, lui, pour mettre tout ça en place, puisqu'on sent qu'il a une volonté d'avancer sur ces sujets.
Sur ce terrain précisément, lui répond justement par la volonté d'expulsion. Et il dit, donc c'est pour ça qu'il a communiqué beaucoup sur ce sujet, et il note, lui, une inflexion doctrinale majeure, notamment impulsée dans ces fameuses lettres envoyées au préfet extrêmement régulièrement, notamment par Gérald Darmanin. Vous savez, c'était un sujet qui était très traité dans la loi immigration. Et l'inflexion doctrinale en question, c'est que, en gros, avant, comme il y a une procédure extrêmement compliquée et il y a une mobilisation des services de préfecture pour un dossier d'expulsion qui est inimaginable, enfin, sauf par les auditeurs, les téléspectateurs de Face à l'Info, parce qu'on leur en parle souvent,
oui.
Mais c'est évidemment une implication immense. Et donc souvent, l'administration ne lançait même pas la procédure, tellement persuadée finalement que l'expulsion n'arriverait pas. L'inflexion doctrinale, c'est que désormais, on leur demande, et la volonté politique se trouve là, en attendant les changements sur la procédure elle-même, en tout cas des changements un peu plus significatifs, que de pousser tous les dossiers jusqu'au bout et qu'ensuite chacun prenne ses responsabilités. Donc en effet, il communique, il dit qu'il y a plus de 260 délinquants étrangers qui ont été expulsés. C'est plus que les années précédentes, c'est encore moins que la réalité de cette délinquance. Lui, jusque c'est indispensable précisément pour envoyer le message sur la délinquance étrangère. Vous savez que désormais, en centre de rétention administrative, on met d'abord les délinquants avant les étrangers, simplement en situation irrégulière. Et il le dit, c'est d'autant plus important parce qu'en ce moment, la situation est plutôt calme sur les flux migratoire. Alors, plutôt calme pour la préfecture des Alpes-Maritimes,
oui, ça veut
c'est
dire
300 à 400 interceptions par semaine. Mmh. Donc, il me dit, ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais cet été, on était à 200 ou 250 par jour. Donc, ils disent, en temps calme, c'est-à-dire maintenant, on va mettre en place une maîtrise de ces flux, et notamment par le biais de la délinquance, pour pouvoir tenter de se préparer au moment où la tempête reviendra, si elle revient, ce qui ne manquera pas probablement d'arriver.
Alors, temps calme, on aime bien entendre ça, temps calme, accalmie. Mais comment expliquer justement cette accalmie et surtout comment la préfecture se défend-elle contre ceux qui l'accusent de stigmatiser les étrangers sans s'attarder sur d'autres causes de cette délinquance?
Alors, sur la question de l'accalmie migratoire, on va dire, il y a la saison météorologique, tout simplement, qui ne favorise pas les passages et en mer et par les cols montagneux. C'est la première chose, évidemment. Et la deuxième chose que souligne quand même la préfecture, ce qui est quand même pas négligeable, c'est les accords bilatéraux passés par l'Italie. Alors, on dit souvent que Giorgia Meloni n'a rien réussi. Eh bien, la préfecture des Alpes-Maritimes dit que très clairement, ce qui a changé, c'est les accords 1 sur l'examen des demandes d'asile en Albanie, ce qui a été accepté par le Parlement albanais. Et la deuxième chose, c'est les accords bilatéraux, donc directement entre l'Italie et la Tunisie et la Libye, avec une explosion des interceptions au départ de ces pays-là et non pas à l'arrivée, puisque vous savez que sinon la prise en charge est obligatoire. Mmh. Ensuite, alors il y a une véritable interrogation sur la décision récente dont on avait parlé du Conseil d'État, qui oblige la préfecture à laisser 30 jours à la personne qui est interpellée à la frontière pour partir d'elle-même avant de réagir. Là, si les flux migratoires reprennent comme ils étaient cet été, ça risque d'être clairement la catastrophe, parce que c'est l'abolition pure et simple de la frontière, tout simplement. Et ensuite, concernant, donc voilà pour la question de l'accalmie, on va dire, des flux migratoires, et la question des attaques, là, le préfet répond simplement, en fait, c'est d'abord, est-ce que c'est une réalité qu'il faudrait taire parce que certains ne veulent pas l'entendre? ce sont des chiffres, c'est des statistiques, il n'y a rien de plus brut, on va dire, que ça. Deuxième chose, est-ce que c'est une donnée plus pertinente, et la question évidemment plus intéressante, est-ce que c'est une donnée plus pertinente que d'autres sur le terrain de l'action, c'est-à-dire de la réponse à cette délinquance? Or, quelles ont été les accusations proposées, on va dire, à l'encontre d'Hugues Moutou? Un, on l'accuse de dire que ce ne sont pas des hommes. J'ai entendu ça dans la bouche d'un de nos confrères. Oui. Alors, c'est exact, et d'ailleurs, on le souligne souvent, la délinquance est majoritairement le fait d'hommes. Mais qu'est-ce que fait un préfet de cette information?
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il propose la castration chimique de la délinquance, il propose d'enfermer les hommes en prévention, il n'y a pas de réponse d'un préfet. On ne va pas interdire les hommes parce qu'ils font de la délinquance. Deuxième chose, c'est Cédric Héroux, vous savez, le militant pro-migrant, qui lui dit, forcément, il y a plus d'étrangers, parce que vous interpellez pas dans les centres-villes, vous interpellez dans les quartiers où il y a plus d'étrangers. Alors, en général, quand il y a... Là, on parle de délinquance sur la voie publique, donc beaucoup de flagrants délits. En général, les policiers interviennent sur de flagrants délits sur des faits, pas sur des personnes ou des quartiers. Ils sont appelés sur un fait, et d'ailleurs, si ça suit devant la justice, c'est parce que le fait est confirmé, pas parce que la personne est de telle couleur de peau ou qu'elle vient de tel pays ou que sa situation administrative est celle-ci. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'interpellations dans le centre-ville, notamment à Nice et à Cannes. Et ensuite, on l'accuse de ne pas s'attarder sur la pauvreté. Et là, évidemment, quand on a des réponses qui s'appellent politique de la ville, aide sociale, développement urbain, il y a évidemment une réponse qui est faite sur la pauvreté. D'ailleurs, je note que beaucoup de pauvres ne sont pas délinquants et que donc il y a bien une autre explication qui s'ajoute. Et quand vous avez un département dans lequel les entrées explosent, le nombre de mineurs étrangers explose et qu'il y a cette anomalie statistique sur le nombre d'implications d'étrangers, si vous ne prenez pas en compte cette donnée-là, c'est que vous êtes irresponsable ou alors confit d'idéologie au détriment des victimes.
Incroyable. Merci beaucoup pour votre analyse, Charlotte Dornelas. Peut-être qu'il y a un lien quand même. Parce que lorsqu'on voit que le préfet des Alpes-Maritimes dit que 54% de la délinquance sur la voie publique à Nice est le fait d'étrangers, Gérald Darmanin aussi l'a dit, enfin voilà, ce sont des choses qu'on constate. Alors là, il y a quelqu'un pour qui ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Alors, l'activiste féministe Marguerite Stern, de passage à Livre Noir, a voulu établir un lien entre la violence contre les femmes et l'immigration, en affirmant notamment qu'on retrouvait proportionnellement plus d'individus membres de certaines communautés immigrées, on va dire, que d'autres parmi les agresseurs. Et elle dit que les immigrés agressent plus les femmes, pour dire les choses clairement. Et elle est traîner devant les tribunaux aujourd'hui, plainte de SOS racisme. Est-ce qu'on est là devant une tentative de censure? Et pourquoi on sent deux poids deux mesures? Je ne comprends pas.
Tentative de censure, j'ai prise en charge par les institutions. Alors,
parce qu'elle-même a dit que ce sont des faits.
Voilà, 16 juillet 2023, elle dit ça dans un passage à Livre Noir. Vous savez, le média internet bien connu. Elle pointe notamment, elle dit, je ne parlerai pas d'immigration extra-européenne. Elle dit, je veux pointer, ce sont ses mots, l'immigration africaine et musulmane, dit-elle. Donc ça, pour avoir dit cela, on l'accuse d'avoir stigmatisé les gens d'origine africaine, musulmane, donc les différentes communautés qu'elle mentionne, en disant, le fait de les mentionner, en prétendant qu'il y a une vérité statistique qui se révélerait à travers ça, ça relève, nous dit, parce que c'est SOS Racisme qui décide de se mobiliser pour la sanctionner, ça relève de l'injure publique envers un groupe de personnes en raison de l'origine et provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes. Bon, vous comprenez l'idée.
Ils ont peut-être raison.
Moi, tout ce que je note là-dedans, c'est que si... Et je reviendrai. La question est de savoir, est-ce que le vrai critère, c'est la conformité idéologique au récit de la diversité heureuse, ou est-ce que c'est le vrai ou le faux? Moi, si Marguerite Stern dit des faussetés, il faut arrêter avec tout ça. C'est faux. C'est faux. Si c'est vrai, c'est vrai, même si c'est désagréable. Je prétends pas trancher. Je dis que le critère de vérité devrait être plus important que le critère de conformité idéologique. Je note que c'est ce qu'elle répond sur... Parce qu'elle est passée devant la police. Et là, elle s'est justifiée en donnant quelques exemples. En disant, un homme qui a été socialisé en Égypte ou en Afghanistan ou en Iran, dans un pays où la culture n'est pas particulièrement conforme à notre conception de l'émancipation féminine, a de plus grandes chances d'avoir des schèmes culturels dans la tête qui va le pousser dans une société libérale comme le monde occidental, qui pourrait le pousser à avoir des comportements contraires à la liberté ou à l'émancipation des femmes. Soit, en gros, la femme respecte les mœurs traditionnelles, soit elle est disponible sexuellement parce qu'on considère qu'elle est une femme de petite vertu, disons ça comme ça. Elle propose des faits. Elle dit, j'ai peut-être tort. Mais elle dit, sur ces faits-là, je ne reculerai pas. Et moi, ce qui me frappe à travers tout ça, et j'y reviens, c'est la question n'est pas de savoir si c'est un propos qui choque, si c'est un propos qui est une provocation ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, c'est la seule question qui m'intéresse.
Alors, vous dites qu'il s'agit d'une police idéologique.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par police idéologique?
Bah oui, non, mais c'est exactement ça. Vous avez, c'est exactement ça dont on doit parler. C'est-à-dire, SOS Racisme se présente dans les circonstances financées par l'État. Faut pas l'oublier, il y a de l'argent de l'État là-dedans. Donc, vos impôts, nos impôts à tous, servent à financer... Déjà, moi, ça me choque toujours, la question des impôts. Servent à financer des gens dont la fonction consiste à traîner devant les tribunaux ceux qui disent des propos, peut-être des vérités, ça serait savoir, des propos qui déplaisent. Donc leur fonction, ça consiste non pas à répondre aux arguments, ce qui serait le code d'une société libérale, mais à dire ça, ça heurte l'orthodoxie et vous devez aller devant les tribunaux. Les services de l'État sont mobilisés, légitiment la démarche de SOS Racisme. Donc il y a un dispositif techno-juridique financé par l'État qui est là pour produire non seulement de la censure, mais aussi de l'auto-censure. Parce que vous voyez ce qui arrive à Margaret Stern. Vous vous dites, la prochaine fois, si j'ai quelque chose à dire de semblable, je vais me taire moi-même. Je vais, pas de peur d'être sanctionné. Donc j'y reviens. Auto-censure, négation de la vérité, police de la pensée, police idéologique. Reste à voir si tout cela est conforme à la démocratie libérale que nous chérissons.
Ça nous parle beaucoup, tout ça. Merci. Merci à tous.
Merci.
Excellente suite de programme, l'heure des Pro 2.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.